Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Salut lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, une émission, vous êtes bien sur PVC, mais une émission particulière aujourd'hui. On pourrait parler d'un hors-série de Polar Vin et Compagnie qu'on va exceptionnellement appeler Polar Bière et Compagnie. Donc déjà aujourd'hui, pas de rubrique Pinard, un Polar Bière et Compagnie terriblement punk donc. Didier a revêtu son perfecto, son t-shirt Nevermind the Bollocks, jean déchiré au genou. De mon côté, c'est t-shirt Ramones, jean bien crade et converse rouge. Alors pourquoi cette rébellion des deux sexagénaires que nous sommes? Ben d'abord parce que tous les deux, nous ne sommes pas passionnés que de roman noir, mais aussi de musique. Didier, tu animes sur cette même radio l'émission A Quiet Moment.
Ouais, Quiet Moment. Pour tous ceux qui parlent anglais couramment, hein, comme moi, un moment tranquille. Bon, en fait, pas du tout, hein, puisqu'on y passe pas mal de rock. Et puis, beaucoup de punk, hein, comme en ce moment.
Donc, c'est diffusé le 4e mardi du mois, 21h.
Alors, oui, je vais faire quand même un petit peu de pub. Hein. Tous les 4e mardis de chaque mois, à 21h, avec une rediffusion le dimanche. Hein. Pour ceux qui sont tranquillement en week-end, et puis bien sûr un podcast, comme toutes les émissions de Radio Larzac.
Et pour moi, auto-promo, c'est Funky Good Time, le dernier jeudi du mois, avec 20h à 20h, avec une rediffusion le samedi suivant à 22h.
Une super émission.
Et tous
bon,
les
d'accord,
deux...
c'est pas du rock, mais bon.
Bah, c'est du funk. Merci Didier. Et musicalement, on a un point commun, on aime le punk et la bière.
Ouais. Allez, un
et
petit
le
coup.
Punk.
Hop.
Kenavo les jeunes.
À la tienne Nico.
C'est le moment de monter le son.
Donc vous avez reconnu les Sex Pistols dans God Save the Queen. On est dans le nos futurs. On est dans le nos futurs et puis on a un coup de gueule à passer. L'association Cap Polar Sud Aveyron, que nous représentons, avait pour habitude d'organiser au mois de mai la venue d'auteurs et d'autrices en collaboration avec le collège Marcel Aymard de Millau. C'est ainsi que, l'année dernière, sont venus Rachel Korenblit et Laurence Bieberfeld. Cap Polar proposant durant tout le week-end des rencontres avec le groupe lecture du collège, ateliers d'écriture, table ronde avec les autrices, etc., etc. Mais cela pouvait se faire grâce au Pass Culture collectif que mobilisait le collège. Et puis cette année, rien, nada, walou, communiqué du vendredi 31 janvier, le ministère de l'Éducation nationale a mis fin à la part collective du Pass Culture pour l'année scolaire en cours, en invoquant bien sûr des raisons budgétaires. Monsieur Bayrou, Madame Borne, comment vous dire ? Bah alors, à la matière funk, c'est un gros fuck, en fait.
Ouais, bon, on avait tout préparé. Hein.
Ben ouais. Voilà. Alors, nous pensons aux élèves, à leurs professeurs et aux auteurs et autrices et réfléchissons à comment organiser, malgré tout, une de ces rencontres, malgré, effectivement, cette décision injuste. Nous vous en informerons ici. Pour rester dans l'humeur mauvaise, conséquence des nouvelles que nous réserve le monde, nous avons trouvé pertinent de vous lire l'édito qu'Alexandra Schwarzbrod, que nous vous présenterons en suivant, a écrit ce mois-ci dans sa newsletter Libé Polar. Un titre qui veut déjà tout dire, quand la science-fiction devient réalité. Mais que vont bien pouvoir écrire les auteurs et autrices de dystopie maintenant que la réalité dépasse de très loin la fiction ? Ce qui se passe ces jours-ci aux États-Unis et ce qui pourrait se passer demain à Gaza va au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. La CIA se voit purement et simplement dégraissée du jour au lendemain, ce qui doit être observé avec sidération et intérêt par tous les services de renseignement de la planète, FSB russe, DGSE française, MI6 britannique ou Mossad israélien en tête. Les Palestiniens sont menacés d'être expulsés de Gaza afin que les amis de Donald Trump puissent bétonner tranquillement ce cimetière à ciel ouvert pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et chaque matin, nous nous réveillons en nous demandant avec effroi ce que la nuit américaine a bien pu nous réserver. Nous évoquions la dernière fois notre avis de voir les auteurs et autrices de romans noirs américains s'emparer de l'actualité. Mais aujourd'hui, ce sont les écrivains du monde entier qui sont sollicités. Peut-être qu'en lisant ce qui risque d'arriver, s'ils mènent leur projet à terme, les fous furieux de la planète appuieront-ils sur le bouton « pause » ? Oui, on préférerait qu'ils appuient sur ce bouton-là. L'autre est vraiment trop définitif. Nous avons encore des livres à lire, des livres à écrire, des vies à vivre, des êtres à aimer. Des livres à lire, c'est sûr, on est au bord de demander aux éditeurs de faire une pause. Eux aussi, il en arrive de partout. Beaucoup d'étrangers, mais beaucoup de très bons romans français aussi. Fini le temps où le bon polar était forcément scandinave ou américain. On en lit d'excellents ces temps-ci sous la plume d'auteurs et autrices françaises. Cela fait drôlement plaisir. Comptez sur nous pour vous les signaler. Nous sommes au cœur du trimestre le plus riche en publications de polar, alors restez attentifs, nous en avons beaucoup sous la semelle. Voilà, Alexandra Schwarzbrod est directrice adjointe de la rédaction de Libé, mais elle est aussi romancière. Elle était venue d'ailleurs en présenter quelques-uns lors du festival Polar Vin et Compagnie en 2022. Didier, tu as lu ses livres ?
Ah ben j'ai lu ses livres et puis je l'ai rencontré. Hein. D'ailleurs, je dois avouer qu'une de mes plus fortes motivations à vous rejoindre, hein, ça a été une longue discussion que j'avais eue avec elle à l'occasion, je crois, du dernier festival que vous avez organisé. Hein. Bon, tu as dit qui elle était. D'ailleurs, on le voit bien au travers de ses éditos. Hein. C'est la directrice adjointe de la rédaction de Libé. Hein, bon, elle a vécu à Jérusalem hein, de nombreuses années et donc elle est particulièrement bien placée pour parler de ce qui se passe là-bas.
Ouais, elle était correspondante là-bas.
Oui, elle était correspondante. Hein, et elle en a fait, donc, de cette expérience de terrain, elle en a fait le thème de trois de ses livres. Hein, il y a une trilogie qui est consacrée donc, à la problématique, on peut dire, palestinienne, hein, parce que bien qu'elle soit plutôt israélienne, en fait, hein, elle est tout à fait intéressée à l'intégration de ces deux, de ces deux peuples, entre guillemets. Donc, trois livres qu'il faut absolument lire, hein, de mon point de vue. Balagan, c'est le premier. Adieu Jérusalem et Les Lumières de Tel Aviv. Alors, ce sont vraiment, à l'époque, c'était des thrillers dystopiques. Mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on se pose vraiment la question. J'ai un petit résumé du dernier qui m'avait peut-être pas le plus emballé, mais qui faisait vraiment réfléchir. Ça s'appelle « Les Lumières de Tel Aviv hein. ». Les ultra-religieux ont pris le pouvoir à Jérusalem. Vous voyez, c'est pas très très loin de ce qui se passe. Pour former le grand Israël. Les résistants, composés des laïcs juifs et arabes, donc une communauté, une vraie communauté en devenir, se sont groupés à Tel Aviv pour vivre selon des préceptes des premiers kibboutzim. Signe de la division, un nouveau mur a fait son apparition, mais cette fois-ci entre Jérusalem et Tel Aviv, cette fois. Bon, un mur surveillé par des robots tueurs fournis par qui, devinez, par les Russes. C'est peut-être la seule chose qui est totalement dystopique dans le livre. Mais vous voyez, on suit les mésaventures d'un certain nombre de personnages, ils sont six, qui vont essayer de passer ce mur, qui pour une fois n'est pas à l'endroit qu'il est aujourd'hui.
Poursuivi par les drones qui leur tirent voilà. Dessus. Ouais, ouais,
Bon, c'est vraiment un excellent livre. Bon, et on peut la remercier d'avoir attiré notre attention de lecteurs de polar sur cette situation.
D'ailleurs, cette dernière année, on l'a vu beaucoup hein, sur les plateaux télé, parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire, ouais. Parce qu'elle, elle y a vécu.
Et dans le calme. Mmh. Et dans le calme.
Et dans le calme,
le plus objectivement possible.
Je te redonne la parole. Didier, tu n'as rien à vendre.
Ah non, j'ai rien à vendre, mais je suis plein de suggestions. Et aujourd'hui, je viens avec, alors, on dit une BD, bon, on va beaucoup en discuter, parce que est-ce que c'est une BD, est-ce que c'est un roman graphique, hein. Enfin, en tout cas, il y a une, c'est pas une mode, hein. C'est un nouveau style d'expression, et on voit que ce style d'expression a envahi les librairies. Donc, ce que je viens aujourd'hui vous suggérer de lire, c'est le cas David Zimmerman. Alors, bon, une bande dessinée, le cas David Zimmerman, de qui ? De Luca Harari, qui n'en est pas à sa première tentative de nous proposer donc de superbes bandes dessinées, et qui a travaillé cette fois-ci avec son frère Arthur. Alors Arthur Harari, vous le connaissez, en fait, mais pas dans ce cadre-là. C'est parce que c'est le co-réalisateur et scénariste d'un film que là, vous connaissez, qui a été réalisé par Justine Triet, L'anatomie d'une chute.
Ah bon ?
Ouais, incroyable, hein ? Alors, un roman graphique, on dit que c'est le plus troublant de 2024. Moi, c'est vrai que j'ai adoré cette thématique, hein, parce que vous allez voir, on peut encore avoir une idée originale sur cette thématique. Bon. Alors, c'est quoi ? Eh ben, et si vous changez de corps et de genre par la même occasion ? C'est ce que Luca Harari a imaginé un matin en se réveillant. Alors, je ne sais pas comment il se réveillait, pour son troisième roman. Parce qu'effectivement, c'est déjà son troisième roman graphique. Le premier, qui s'appelait L'aimant, est fantastique, hein, je veux dire, il est magnifiquement dessiné avec des très très grandes plages, et c'est une histoire, un thriller qui se passe dans les Thermes de Vals, en Suisse, qui a été conçu par Peter Zumthor. C'est un endroit fantastique. Bon, impossible de se le payer, bien sûr, on n'a pas les moyens, mais enfin, c'est extraordinaire. Et puis il a fait un deuxième roman qui s'appelle La dernière rose de l'été, un thriller estival, et puis enfin, on en vient donc au cas Zimmerman, hein. Avec l'histoire, vous pouvez l'imaginer, d'un protagoniste qui se retrouve dans le corps de son amante de la veille. Il est un petit peu perdu, hein, je dois dire. Bon. Et vous allez voir, si vous avez la curiosité de le lire, il va être de plus en plus perdu. Et nous aussi, heureusement, il y a une chute. Alors, mais il n'a pas trouvé cette chute tout seul. Il a été aidé par un scénariste que je viens de citer, hein, c'est-à-dire c'est son frère. Hein, parce que sinon, je pense qu'il ne serait jamais arrivé à boucler la boucle. Donc, un roman graphique, une bande dessinée, très réaliste, on hésite. Et une volonté de réalisme qui s'exprime aussi bien dans le soin apporté au décor. Les architectures parisiennes n'ont sans doute jamais été aussi bien rendues que depuis les Nestor Burna de Tardy, d'après Léo Malet. D'ailleurs, quand on les interroge, ils avouent tous les deux que c'est leur bande dessinée favorite. Donc, vous l'avez compris, une bande dessinée, un roman graphique, le cas David Zimmerman, surtout à ne pas manquer.
Merci Didier pour cette découverte.
Yeah.
Ah oui, c'était les Ramones. Hein. Vous les avez sans doute reconnus. Hein. C'est sûr, après les Sex Pistols, les Ramones.
Bah oui.
Et pour une fois, hein, bien enregistré, parce que c'est vraiment un disque particulier, figurez-vous que c'est Phil Spector qui était leur producteur. Il les a pris pour les Ronettes. Je pense que il avait des problèmes. Enfin bon, superbe disque. Hein. End of the Century, I am affected. Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter, parce que c'était vraiment pas des flèches. Hein. Moi, je les ai vus. Ils arrivaient dans le noir, hein, voilà, on les attendait dans le noir, donc on voyait rien du tout. Et c'était à l'époque qu'on devait encore brancher les guitares. Et le guitariste, alors je ne connais pas le prénom, je regarde quand même le t-shirt de William. Peut-être que je vais le trouver. Je pense que c'était Joey.
Ben,
hein, oui. Peut-être bien. Et alors, il n'arrivait absolument pas à brancher sa guitare. Et on a vu arriver le Rudy à quatre pattes, avec une lampe de poche. Il rampait sur la scène et il a branché la guitare. Voilà.
Alors Alexandra Schwarzbrod nous disait à la fin de son édito « Nous sommes au cœur du trimestre le plus riche en publications de Polar ». Et elle n'a pas tort. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous. Alors ils ont été écrits par des auteurs et autrices francophones que nous aimons, que nous avons rencontrés. Nous les aimons et ils nous le rendent bien.
Oui, on les suit hein, d'ailleurs, je pense, d'aventure en aventure parce qu'ils ont des personnages qui sont récurrents. Donc le premier, c'est un « Seul œil » de Michel Pedinelli aux éditions de l'Aube, une nouvelle enquête de Jew pour les inconditionnels de Giulia Boccanera, la détective, la fameuse détective privée niçoise.
Alors, il y a aussi « Mauvais cœur » d'Audrey Brière au Seuil. On y retrouve Mathias et Esther, ce binôme surprenant, déroutant même, qui avait failli obtenir le prix Robin Cook l'année dernière. Elle avait fini seconde.
Ah oui, ça s'était joué à peu. Hein.
Ouais.
Bon, il faut dire qu'il y avait de très très bons livres hein, sur ce prix. Comme cette année.
Comme cette année.
Hein, je pense. Hein. Donc, une autre nouveauté, Enua, de Marin Le Dain. C'est comme ça qu'on doit prononcer,
ouais, ouais.
Hein, chez Gallimard, qui nous amène aux îles Marquises, un pays rongé par les conséquences de la colonisation et hanté par le spectre de nos fameux essais nucléaires français, où le silence est d'or et où les secrets bah, sont bien gardés. On va le voir, hein, je pense.
Et la mue de Céline Dangean chez Michel Lafon. Alors, Céline est originaire de l'Ariège, on la voit régulièrement à Toulouse Polar du Sud. Elle nous amène à travers la brume hivernale de ses Pyrénées natales où la major Louise Comon mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre. Florent a lui aussi choisi de nous présenter le premier roman d'un auteur sénégalais.
Makodou Atolodé pour Étincelle Rebelle, son premier roman. Moi, je suis en quête du premier roman, en quête, comme une enquête. Voilà, je me donne 3 minutes pour vous donner envie de lire Étincelle Rebelle, édité chez Gallimard dans la collection Série Noire et écrit par Makodou Atolodé. C'est un premier roman d'un jeune Sénégalais né à Dakar, qui est venu après son bac faire des études d'ingénieur en France. Et c'est un premier roman que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un roman ambitieux, une enquête très bien construite, et puis sans doute un roman qui ouvrira, j'espère, à d'autres enquêtes. Donc, de quoi ça parle ? Ce polar.
Ah ben oui, on a envie de savoir.
Alors, c'est un vrai roman policier. Donc, on a un inspecteur, Gabriel Latir-Faye, qui arrête au début du roman un narcotrafiquant, c'est à la mode, de cocaïne, surnommé l'Italien. Et très vite, ce narcotrafiquant se retrouve libéré et notre inspecteur se trouve muté en Casamance. Donc c'est l'occasion aussi pour Makodou Atolodé de nous faire des descriptions absolument superbes et très poétiques de la Casamance, donc une région qui a toujours été sous tension au Sénégal. Donc arrivé en Casamance, l'inspecteur Latire va faire la rencontre de la jeune Hagen, une journaliste locale qui va l'aider à comprendre tout un système de corruption absolument fascinant, où on pourra rencontrer des bandits, des pirates, des ministres, des militaires. En tout cas, je vous le garantis, c'est vraiment extrêmement bien construit, très maîtrisé. On va de vague de révélation en vague de corruption, comme sur un bateau bien gouverné, j'ai envie de dire. Bref, j'ai aimé la construction du roman, le style plutôt fluide et des personnages extrêmement attachants, tous sans exception, donc je ne vais pas tous les citer. Voilà, je vous le conseille autant qu'il est possible. Faites-vous plaisir. Je tiens aussi à souligner une chose qu'on retrouve souvent dans les polars qui se situent en Afrique, c'est toute la magie de l'Afrique au sens propre du terme, et la magie, ça marche si on y croit. Et dans toute cette enquête, il y a de la magie. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est Étincelle rebelle de Makodou Atolodé chez Gallimard. Voilà, et une dernière chose. Si on peut comparer ce roman à ce qui se fait par ailleurs dans le polar situé en Afrique, je dirais que la grande force d'Étincelle rebelle, c'est de nous faire entrer au Sénégal et en Casamance sans aucun effort. Voilà. Je ne sais pas comment fait l'auteur, mais je lui dis bravo. Donc vous pouvez l'acheter. Étincelle rebelle, Makodou Atolodé.
Pour un premier roman chez Gallimard, et puis Gallimard a mis le paquet, parce que une super page de couve, magnifique.
Superbe, toute noire, lettrage blanc et doré, et la couverture demande à ce qu'on l'incline pour reconnaître un fauve. Sinon, on ne voit que son œil qui est comme une étincelle.
Magnifique.
Très bon.
Merci Florent pour cette découverte.
Bienvenue, et puis j'essaierai le mois prochain de vous présenter un autre premier polar.
Il nous tarde d'y être.
Je vous en dis pas plus.
Allez, on va vous révéler notre secret, Didier et moi. Si pour cette émission nous avons replongé dans notre passé punk, c'est en fait pour saluer l'arrivée de notre nouveau roman. Son titre, Le Clash. Et son auteur, qu'on adore, qui est un ami de Cap Polar et un fidèle du festival Polar Vin et Compagnie, Benoît Séverac. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors, ton éditeur, Cyros, dévoile cet extrait sur le site. La première fois que j'ai rencontré Tom, chez lui, en Angleterre, j'ai été fasciné par son audace. Ce mec ne se laissait dicter sa conduite par personne. Il était à peine plus âgé que moi et déjà, il agissait un homme libre. C'était un punk, un vrai. À son contact, je me sentais pousser des ailes et j'avais envie tout à coup de les déployer. Quand le clash avec les skinheads a éclaté, j'ai essayé de me convaincre que Tom avait la situation sous contrôle. Mais c'était trop tard, ma vie venait de basculer. Avant de revenir sur le passé de Nicolas, ce livre est avant tout une histoire de relation père-fils, un sujet récurrent dans tes romans, Benoît ?
Oui, c'est vrai, c'est conscient. Je pense que c'est un sillon qui est le mien depuis le début, quasiment depuis mon premier roman. Et puis c'est peut-être un peu quelque chose qui me travaille pas mal dans ma vie, donc je pense que ça se retrouve dans mes romans. Après, d'un point de vue romanesque, c'est infini. La question de la famille, de la transmission, de ce dont on hérite, dont on n'aimerait pas hériter, ce dont on aimerait hériter, dont on n'héritera pas. Sans parler de la transmission, ce qu'on transmet sans le vouloir. Et bon, tout ça, c'est vieux comme la littérature. Je pense que ça se renouvelle à chaque génération. En fait, c'est ça aussi quand même qui est fascinant, c'est que la famille, c'est le lieu de la construction, c'est le lieu de la confiance, c'est le lieu de l'amour. C'est là qu'on vous donne tous les outils pour devenir un homme, une femme. Mais c'est aussi le lieu du trauma, c'est aussi le lieu de la trahison, du conflit, donc et du clash, sans jeu de mots. Donc, je pense que c'est universel. Donc, je pense que j'ai pas fini de creuser ce sillon là.
Alors pour revenir à ce roman, alors j'ai voulu l'acheter, pour le lire et puis pour préparer cette émission. Il était déjà épuisé, en tout cas chez mon libraire préféré. Tu peux nous le résumer un petit peu, le Clash ?
Le Clash est un, en fait, c'est une espèce de récit à double niveau, c'est-à-dire qu'on est dans une conversation entre un père et un fils aujourd'hui, lors d'une rando dans les Pyrénées, et c'est l'occasion pour le fils qui va partir très prochainement en séjour linguistique en Angleterre, de recevoir le témoignage de son père, qui va lui, même les confidences de son père qui a fait un voyage similaire 30 ans plus tôt et à qui il est arrivé des choses, on va dire, fondamentales dans le sens qui l'ont fondatrice, quoi, une expérience de vie dont il a retiré un enseignement et qu'il aimerait transmettre à son fils. C'est un roman initiatique et ça va raconter donc la plongée d'un petit Comminjois, quelqu'un qui vient du Piémont pyrénéen et qui pour la première fois de sa vie voyage à l'étranger, se retrouve dans les années 70 en plein mouvement punk et en plein clash entre les punks et les skinheads, et qui va goûter à la liberté, goûter à l'interdit, à la transgression, et pour qui évidemment ça va pas se passer et tout à fait comme prévu, et qui va en tirer un enseignement comme dans tous les romans initiatiques.
Un lien avec le groupe ou c'est juste un jeu de mots en fait?
Non, oui, bien sûr, c'est un jeu de mots volontaire sur,
oui, j'imagine,
par rapport à ce groupe qui est emblématique du mouvement punk, mais bon, et outre le fait que moi j'adore ce groupe, c'était aussi quand même le assez représentatif de ce que c'est que l'adolescence, quoi. L'adolescence, c'est pas forcément un clash, mais c'est souvent un clash, quoi. À un moment donné, il faut couper le cordon ombilical, et c'est parfois fait de façon un peu brutale.
Ouais, il faudra qu'on en parle tous les deux.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, on attendait une occasion de parler des clashs. Voilà.
Alors, Cyros, alors j'avais pas du tout compris que c'était un livre jeunesse quand j'ai vu le Clash moi de suite. Enfin, t'imagines. Donc, Cyros, c'est une maison d'édition spécialisée jeunesse. Mais ton roman s'adresse aussi aux adultes, aux papas en tout cas.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui pour moi est constant dans mes écrits pour les ados. Je m'adresse à des ados, je le sais. Mais je vois pas pourquoi les adultes se passeraient de cette littérature-là. Je pense que c'est important que les adultes lisent aussi ce que leurs enfants lisent. Et je suis convaincu qu'un bouquin, c'est un médium entre deux personnes. Ça permet de d'échanger, ça permet de parler, d'analyser ensemble. Et si on prend pas les ados pour des idiots, les histoires n'ont d'ados que la catégorie en librairie. Mais ça, c'est du marketing en fait. Mais si on est exigeant envers soi-même, mais aussi si on sait que les ados, et ils le sont exigeants envers nous, les écrivains, je pense que le niveau de littérature est le même qu'en littérature adulte. Simplement, comme ce sont des ados à qui je m'adresse, les personnages seront des ados, leurs préoccupations seront celles d'ados, mais quand on est, quand on est un lecteur, un homme qui lit une histoire qui se passe en Chine, je ne suis pas plus chinois qu'ado. Oui. Je suis capable de m'intéresser à des choses qui intéressent des gens très éloignés de moi ou de mes préoccupations, heureusement. Donc je vois pas pourquoi l'âge serait plus une barrière que la géographie, par exemple.
Alors on est un peu limité dans le temps. Tu sais qu'on a toujours plaisir à échanger avec toi. Toute la bande de Polar et compagnie derrière moi dirait le plaisir qu'ils ont à te recevoir. Donc on est obligé un petit peu d'écourter. Tu as une autre actualité littéraire là actuellement. Parce que l'an dernier tu nous as gâté avec Le bruit de nos pas perdus. Quand on t'a vu au FIRN, c'était un peu les retrouvailles, là, c'était assez émouvant. Et tiens, d'ailleurs, j'avais mon t-shirt Ramones déjà. il y a des preuves avec une photo justement avec toi. Tu nous avais présenté aussi un livre en collaboration avec ton frère, qui lui est photographe.
Non, alors mon fils et mon père.
Ton fils, pardon, ah, oui, ton fils. Frère. Ah oui, c'était intergénérationnel, oui, pardon.
Oui, c'est un objet qui s'appelle Ondes Algériennes, qui est un objet littéraire un peu particulier dans la mesure où c'est trois générations de Sévrac, mon père, moi et mon fils, je nous cite dans l'ordre d'apparition, et qui avons questionné la guerre d'Algérie. Donc chacun a, c'est moi qui ai amorcé, qui ai ouvert le bal avec une fiction, puisque je suis écrivain de fiction, donc je suis parti là-dessus, ce qui a déclenché la parole chez mon père, qui a écrit un récit de la guerre d'Algérie dont il n'avait jamais pu en parler, et ça a été un peu un élément déclencheur de la parole chez lui. Et mon fils, qui est photographe, lui, dont c'est le métier, s'est emparé de ça et a fait des photos à partir des photos de l'armée de mon père. Donc enfin bref, c'est un bel objet, c'est une nouvelle Ondes Algériennes, un récit de guerre et des photos.
Écoute, Benoît, on te remercie d'avoir répondu à nos questions, de d'être mis à notre disposition. Et on te dit à très bientôt à Millau.
Un grand merci à vous.
Je l'espère.
Et vraiment, à bientôt, les Aveyronnais. J'ai hâte de revenir sur vos terres.
Avec plaisir. Ciao, Benoît.
Au revoir.
Passe vite, c'était évidemment les Clash dans Police and Thieves. Difficile de choisir un morceau représentatif du groupe. Il fallait forcément prendre un du premier album, hein, Didier.
L'éponyme
The Clash.
Quand il était le plus proche possible du mouvement ska et reggae. Hein.
Ouais, sorti en 77 avec cette couverture légendaire où l'on voit Joe Strummer, Mick Jones et Paul Simonon. Terry Chimes, le batteur ayant quitté le groupe après l'enregistrement, n'apparaît pas sur la pochette et il sera remplacé par Topper Reedon. Ce morceau est en fait une reprise, celle d'un morceau du chanteur jamaïcain Junior Mervyn, enregistré un an plus tôt en 1976. Alors, clin d'œil au troisième de la bande, notre ami Papa Doom, c'est bien Sly Dunbar à la batterie sur l'enregistrement initial. Alors, pourquoi The Clash a repris ce morceau ? Il faut parler du carnaval du quartier de Notting Hill à Londres, un carnaval initié puis organisé par les populations originaires des Caraïbes. Dans les années 70, ce carnaval était l'occasion d'émeutes et d'affrontements entre police et jeunes immigrés. Et en 76, d'une part, la chanson de Junior Mervyn devient une sorte d'hymne pour cette jeunesse. Et d'autre part, Joe Strummer et Paul Simonon, donc Joe Strummer, chanteur, guitariste, et Paul Simonon, le bassiste, ont participé aux affrontements. Marqué par ce morceau, il le répète, il le travaille, il l'enregistre dans ce style punk reggae qui va les caractériser. Et voilà, fin de l'histoire. Alors Didier, tout à l'heure, t'as passé les Ramones. Ben, figure-toi qu'au début de la chanson, de celle-là, Joe Strummer réinterprète le vers « They're going through a tight wind », « Ils avancent dans un vent fort », en hommage aux Ramones. Phrase qui est tirée de la chanson « Blitzkrieg Bop » des Ramones, qui reste mon morceau le plus représentatif de la période punk.
Leur premier album, à l'époque où ils n'arrivaient pas à allumer les guitares. «
Bon, ben voilà, c'était un Polar Vin et compagnie un peu surprenant. Dans 15 jours, vous retrouverez... j'ai pas fini ma bière, laisse là.
Parce que Polar Bière et compagnie.
Voilà, pardon, c'était Polar Bière et compagnie, c'est vrai. Donc dans 15 jours, vous retrouverez un numéro spécial Prix Robin Cook avec la présentation d'un deuxième livre et de son autrice. Et puis voilà, ben pour terminer, comme aujourd'hui on était en colère, on finit dans le noir, un groupe punk français mais qui est venu un petit peu plus tard, ben les Berruriers. Et noir cela.
Ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germée, nausée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, méthode devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, de sang